Studio Tamani, voici les informations en français.
Lundi 6 janvier 2025, vous êtes à l'écoute de Studio Tamani. Il est 8h, bonjour et bienvenue. Voici les titres de cette édition. L'armée malienne a affirmé avoir arrêté Mohamed Ould El-Kéil, un cadre de l'État islamique au Grand Sahara près de Bourem. Cette capture s'inscrit dans une série de succès récents contre le groupe terroriste. Le Mali a célébré ce 4 janvier la Journée mondiale du Braille. Impliquons-nous pour une meilleure vulgarisation de l'écriture Braille au profit de l'ensemble des personnes vivant avec handicap visuel. C'est le thème retenu pour cette année. Le prix du poisson est en hausse à Koulikoro malgré son abondance sur le marché. Selon les revendeurs, cette augmentation serait due à la spéculation des coursiers. Voilà pour les titres. Les détails dans un instant avec Assetou Kanté. Gaye Kanté est à la technique. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les forces armées maliennes ont affirmé avoir arrêté ce dimanche deux terroristes, dont un chef de premier plan de l'organisation djihadiste État islamique au Grand Sahara, EIGS. L'annonce a été faite dans un communiqué. Le document précise que plusieurs autres combattants de l'EIGS ont été tués lors de cette opération menée par les FAMA dans le secteur d'Amasrakad, dans la région de Gao. Les détails avec Khalifa Goïta.
Cette arrestation de Mohamed Ould El-Kéil, alias Abou Rakia et récemment Abou H, un chef terroriste de premier plan de l'État islamique au Grand Sahara, a été confirmée par l'État-major général des armées. Le commandement militaire annonce aussi la neutralisation de plusieurs de ses combattants et la saisie du matériel militaire, notamment des composants d'engins explosifs improvisés. C'était lors d'une opération menée avec professionnalisme le 3 janvier par des unités engagées dans le secteur d'Amasrakad à 120 km de Bourem, région de Gao. Abou H était longtemps recherché selon l'armée malienne. Il est connu des services de renseignement pour sa responsabilité et la coordination des pires atrocités de masse, exactions et abus contre les populations dans les régions de Menaka et Gao. Le communiqué indique que la plus grande barbarie qu'a subi le village d'Inouilan en février 2018 est de son œuvre. Ce chef terroriste a aussi brûlé une copie du Saint-Coran sans oublier des attaques contre les femmes. L'armée précise que les premières enquêtes ont permis de confirmer la collaboration d'Abou H avec Abou Ouzeifa et Osama Madalo, deux chefs terroristes déjà neutralisés. Également ses liens avec Abdul Walid Al-Sarawi, Abdel Hakim Al-Sarawi, Rissa Al-Sarawi ont été confirmés pour suivre le communiqué.
Pour l'analyste Al-Hatio Daramaïssa, cette arrestation d'Abou H est un succès majeur dans la lutte contre les groupes terroristes au Sahel. Cependant, l'expert en gouvernance et sécurité exhorte les forces armées maliennes à maintenir l'intensification des opérations militaires, mais aussi à mener des actions de dialogue et d'accompagnement des communautés des zones en proie à l'insécurité. Il est joint par Mahmoud Ag Rissa.
L'arrestation de Mohamed Ould El-Kéil et la neutralisation de plusieurs combattants terroristes sont des opérations significatives sur les plans sécuritaires. Le deuxième aspect, c'est l'impact immédiat sur le terrain. La perte des leaders des premiers plans peut aussi désorganiser temporairement ces groupes et aussi perturber leur chaîne de commandement. Le troisième aspect, c'est pour pouvoir avoir la stabilité réelle dans les régions du Nord, il y a plusieurs facteurs. C'est la continuité des efforts militaires. Il faut reconnaître que ces groupes ont les capacités de se restructurer et de recruter facilement sur le terrain. Il faut aussi l'accompagnement civil à travers des initiatives de gouvernance, de développement et aussi des dialogues avec les populations locales. Et aussi la lutte contre les causes structurelles de l'extrémisme violent dans ces régions du Sahel.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Je vous l'annonçais dans les titres, la Journée internationale du Braille a été célébrée ce samedi sous le thème « Impliquons-nous pour une meilleure vulgarisation de l'écriture Braille au profit de l'ensemble des personnes vivant avec handicap visuel ». À cette occasion, les responsables de l'Union malienne des aveugles UMAV sollicitent l'implication des plus hautes autorités pour une éducation qualitative à la portée des handicapés visuels. Plus de détails dans ce reportage de Sita Sidibé.
L'éducation des enfants en situation de handicap visuel, le manque de matériel didactique et d'enseignants qualifiés restent les principaux défis au Mali, affirme Hadji Bari, président de l'Union malienne des aveugles, IMAV.
La première difficulté, ça, c'est d'abord l'accès au matériel didactique pour l'écriture braille, qui ne se trouve pas sur le marché malien, qu'on est obligé de chercher à l'extérieur. Avec l'accompagnement de l'État et des partenaires, nous souhaiterons un accompagnement de l'État. L'un des défis également, c'est permettre une meilleure scolarisation ou des enfants handicapés visuels.
Sekou Ahmed Koulibaly est un handicapé visuel. Selon lui, l'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap visuel passe par la vulgarisation de l'écriture braille, par la construction des centres d'éducation spécialisés dans le domaine.
Effectivement, les personnes handicapées visuelles ont forcément des difficultés parce que le braille comme écriture n'est pas très reconnu, n'est pas très vulgarisé. Même dans l'accès à la fonction publique, c'est la même chose parce que les sujets ne sont pas transcrits en braille. Les sujets sont dictés directement dans les classes et nous nous chargeons les transcrire, les écrire en braille pour pouvoir les traiter.
Notons que 3 handicapés visuels ont été admis l'année dernière au concours d'entrée à la fonction publique, ont précisé les responsables de leur association.
Actualité en bref, le prix du poisson reste toujours élevé à Koulikoro malgré son abondance sur le marché. Le prix de la carpe varie entre 3 000 à 4 000 francs CFA par endroit. Quant à la silure, son prix est compris entre 1 500 et 1 750 francs CFA. Selon les revendeurs, cette hausse des prix s'explique par la spéculation des coursiers.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Eurtel. Financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
On en vient à présent à notre rubrique Vérifions. Un deepfake largement véhiculé sur les réseaux annonce que Kylian Mbappé a sponsorisé une application mobile qui permet aux Maliens de réussir. Fatoumata Kodjo a vérifié pour nous.
La vidéo montre une présentatrice de la télévision nationale ORTM annonçant que le célèbre joueur français Kylian Mbappé est devenu sponsor officiel d'une application mobile qui permet aux Maliens de réussir. Elle dit par la suite que l'application a eu un record du nombre de téléchargements selon Kylian Mbappé. On attend alors ce dernier dire « Grâce à notre application, des résidents maliens peuvent devenir très riches et changer de vie. Détrompez-vous, c'est un deepfake, une vidéo truquée par l'intelligence artificielle. Plusieurs indices nous permettent de l'affirmer. D'abord, l'image de la présentatrice de la chaîne nationale ORTM a été falsifiée pour lui dire des choses. Sa voix robotisée en est une preuve. Ensuite, le logo de l'ORTM est caché par des inserts pour tromper les internautes. Enfin, la séquence dans laquelle Kylian Mbappé intervient est truquée. À l'origine, il s'agit d'une interview de l'international français réalisée lorsqu'il jouait au Paris Saint-Germain. La vidéo a été en effet postée sur la chaîne YouTube du club le 16 décembre 2021. L'entretien portait sur le parcours du joueur et de ses performances sur le terrain. En conclusion, cette vidéo a été fabriquée de bout en bout et le footballeur international n'a sponsorisé aucune application au Mali pour enrichir les populations.
La prorogation de la révision annuelle des listes électorales, la nomination des membres de la commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, la tension diplomatique entre le Mali et l'Algérie sont entre autres les sujets qui ont marqué l'actualité de la semaine. Le résumé avec Ziadat Amaïka.
Nous commençons cette rétrospective par la prorogation de la révision annuelle des listes électorales jusqu'au 28 février 2025. Cette décision du ministère de l'administration territoriale fait suite à la promulgation par le président de la transition d'une ordonnance modifiant les dispositions des articles 52, 57 et 70 de la loi électorale. Cette mesure vise à créer les conditions nécessaires à l'organisation d'élections transparentes et apaisées selon le communiqué du Conseil des ministres. Autre actualité qui a marqué cette semaine, c'est la période des vaches maigres dans les rédactions. Pendant les périodes de fêtes, l'actualité est généralement moins abondante. Pour faire face à cette morosité de l'actualité, chaque média y va de son astuce. Certains médias audiovisuels se rabattent sur des sujets de société, alors que d'autres essayent de les compléter avec des bribes d'actualité. Nous terminons cette rétrospective par l'escalade diplomatique entre le Mali et l'Algérie. Cette crise survient après que le ministre algérien des Affaires étrangères ait réaffirmé la position de son pays en faveur d'une solution politique au Mali. Ces derniers rejettent l'option militaire qu'il considère comme vouée à l'échec. En réponse, le chef de la diplomatie malienne a rétorqué en disant que le Mali n'est ni demandeur ni preneur des leçons de la part de l'Algérie.
Un mot de sport football avant de refermer cette édition. Quatrième journée de la phase des groupes de la Coupe CAF. Le stade malien de Bamako s'incline devant Renaissance Sportive Berkana par 0-1. Les Blancs de Bamako accueillaient les Marocains hier au stade du 26 mars. Situé dans le groupe B, le stade malien chute à la troisième place avec 4 points. Parallèlement, le Djoliba AC a aussi perdu 0-1 face à Sagrada Esperanza de l'Angola. Un match comptant pour la quatrième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions CAF. Cette défaite rabaisse le Djoliba AC à la dernière place du groupe D avec 2 points. Faites-nous parvenir vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56. À Studio Tamani, nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez l'écouter gratuitement ce journal, le magazine qui va suivre en appelant le service Kunafoni au 37 321. Gratuit, vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Juste après le magazine, vous aurez la version Bambara de ce journal. Une présentation de Mariam Koulibaly. Excellente semaine à tous et à toutes. L'une des conséquences du dérèglement climatique est la prolifération des moustiques, des insectes non seulement nuisibles de par leur piqûre et leur bruit, mais ils constituent aussi un vecteur de paludisme. En 2022, un total de plus de 3 millions de cas de paludisme a été enregistré, dont plus de 1 million de cas graves. Le ministère de la Santé, qui avance ces chiffres, ajoute que 1498 décès, soit un taux d'hospitalisation de 1,25%. Quel lien existe-t-il entre le moustique et le dérèglement climatique? Quelles sont les conséquences sur les populations? La réponse dans ce magazine Parlons de l'environnement, une réalisation de Fatih Yatara.
Les phénomènes météorologiques extrêmes, à l'image des vagues de chaleur et des inondations, sont entre autres des phénomènes qui occasionnent la multiplication des moustiques. Un fait confirmé par l'expert environnement en changement climatique, Gaussou Berthé.
Il faut reconnaître que des travaux scientifiques ont démontré une relation étroite entre la température et la réplication virale chez des moustiques, ce qui donne lieu à un raccourcissement de la période d'incubation intrinsèque et cycle du virus dans le moustique, donc une augmentation du taux d'infection et une dissémination plus rapide, bien que cela varie selon les espèces et le virus.
Ceci montre à suffisance que les rapports des règlements climatiques et prolifération des moustiques constituent un vrai problème de santé publique, ajoute l'expert.
Pamela Martinez, chercheuse à l'Université de l'Illinois aux États-Unis, a déclaré que les conclusions de son étude sur les tendances du paludisme en Éthiopie, par exemple, publiée en 2021 dans la revue Nature renforce l'idée que le paludisme et la température et par conséquent le changement climatique sont liés. À mesure que la planète se réchauffe, le risque d'épidémie de paludisme s'intensifie.
Selon des experts, il s'agit de différentes espèces de moustiques multiples et divers. Le professeur Issa Kassagara, directeur du Centre de recherche et de formation sur le paludisme, affirme qu'en dehors du paludisme, ces moustiques sont des vecteurs d'autres maladies graves, voire mortelles.
Il existe à ce jour réellement plus de 3600 espèces de moustiques. Donc parmi les différentes maladies que nous pourrons citer, c'est la fièvre jaune, c'est la dengue, c'est le Zika, c'est la filariose et autres maladies également.
Cette complication écologique touche tous les pays. À Ansongo, dans le nord du Mali, selon les autorités sanitaires, le paludisme occupe le premier rang des pathologies courantes dans leur district sanitaire. Abdoulbaki Diallo, médecin-chef du centre de référence d'Ansongo.
Le paludisme est la principale cause de consultation aujourd'hui, pour aller jusqu'à 80% des patients que nous recevons par jour. Une centaine par jour, je vais de toutes couches confondues, de la maternité en passant par la médecine.
Des populations de la région de Badjangara, Rarous et Tombouctou se disent étonnées et inquiètes de la multiplication progressive des moustiques depuis quelques temps. Un phénomène qui n'existait pas, selon elles, dans leur zone. Il impacte le travail et d'autres activités, entraînant ainsi des pertes économiques.
Beaucoup d'enfants et nos personnes âgées sont malades en ce moment à cause des moustiques.
Tous nos enfants ont attrapé le palu et c'est très inquiétant. 28 ans.
Il y a tellement de moustiques.
Auparavant, on ne connaissait pas de moustiques ici à Tombouctou.
Il y a trop de moustiques cette année. Les parents sont fatigués. Nous ne sommes même pas où partir.
La direction du Centre de recherche et de la formation sur le paludisme annonce la mise au point de deux vaccins contre le paludisme. Il s'agit du RTSS et le R21. Elle précise aussi que le R21, qui concerne les enfants de 5 à 36 mois, sera déployé en 2025. Une nouvelle qui constitue une lueur d'espoir pour le Mali. Merci d'avoir suivi ces numéros. À la prochaine.